France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Tous les jours, nous allons dans les hôpitaux, donc ramasser tous les déchets hospitaliers. Je me sens utile.
On était tous des petits makers qui faisaient ça à la maison H24. Et du coup, ça nous permet de réaliser entre 400 à 600 visières par jour.
Il va falloir des prises de conscience de beaucoup, au niveau du système de santé, au niveau des personnels de santé qui étaient déjà en grande souffrance. Il faudra que les gouvernements prennent conscience que c'est un maillon important de la vie.
Un adolescent produisant à la chaîne des visières de protection dans son appartement, des industriels oubliant leurs intérêts pour fournir ensemble des masques ou des respirateurs aux hôpitaux, des hôtels 4 étoiles hébergeant gracieusement des soignants partis loin de chez eux pour combattre le coronavirus, la crise sanitaire que nous traversons et les mesures de confinement mises en place pour freiner la pandémie ont-elles bousculé notre société au point d'imposer un modèle économique plus solidaire ? Ces initiatives, individuelles ou collectives, sont-elles des exceptions, de belles images dont on se souviendra avec nostalgie une fois la crise terminée? Cette semaine, le laboratoire français Sanofi a semblé vouloir donner la primeur de son futur vaccin aux États-Unis en remerciement de leur prise de risque financière. Mais les propos du directeur général auraient été déformés. Emmanuel Macron appelle de nouveau à ce que ce vaccin soit extrait des lois du marché. Et l'Élysée déclare, il faut maintenir les efforts considérables, multiples, pour arriver à construire autour d'acteurs multilatéraux une réponse collective et coordonnée face à la pandémie. Cet état d'esprit pourrait-il infuser au-delà du seul secteur de la santé ? Covid-19, la nouvelle économie sociale et solidaire, c'est un reportage signé Sophie Delpont. Invité de ce grand reportage, l'économiste Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Vous allez nous livrer votre analyse sur l'impact de cette pandémie après avoir écouté le reportage de Sophie Delpont. Sophie, à crise exceptionnelle, conditions de tournage exceptionnelles aussi.
Oui, bonjour Aurélie Kiefer. Un tournage sur un mois et demi avec un masque, une perche d'un mètre pour porter le micro, protégé par du cellophane et une demi-heure de temps de décontamination rentrant chez moi après chaque tournage. Reportage tourné avec du matériel France Info et dont quelques extraits courts ont été diffusés sur les antennes de Radio France pendant le confinement de France Culture. Un mois et demi de reportages pendant lesquels j'ai croisé beaucoup de personnes, des infirmières, volontaires, des jeunes de tous âges qui ont réinventé, créé des solutions pour pallier le manque d'équipement, une aventure aussi industrielle, une économie solidaire et sociale en acte.
Votre reportage commence avec Elisabeth, infirmière volontaire. Vous l'avez rencontrée le 18 avril dernier à l'hôtel Holiday Inn, Gare de l'Est, dans le 10e arrondissement de Paris.
Je m'appelle Elisabeth, j'ai 45 ans. Je suis infirmière en soins généraux. Là, je suis actuellement positionnée sur l'hôpital Avicenne, dans le 93, il me semble. Et je suis en pneumo Covid depuis le 1er avril. Je suis arrivée le 31 mars quand ils ont ouvert l'hôtel, en fait. Je suis leur première cliente, on va dire. Et on est logé gratuitement, on nous bichonne, comme vous voyez, le café, les petites viennoiseries, de l'eau, enfin, voilà. Et un accueil super sympa, en plus des volontaires, parce qu'ils sont volontaires, apparemment. Là, je me réveille, on les voit, ils sourient, c'est sympa. Oui, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui nous accueille avec un sourire, déjà. Et puis, ça permet de vider un peu sa tête quand on sort, quoi. Enfin, quand on sort, moi là, je me réveille, c'est pas pareil, mais j'ai travaillé cette nuit, donc voilà.
Ça vous a étonné, ça vous a touché ?
Touché, oui. Étonné, oui, aussi, parce qu'on s'attend pas à ce que des hôtels de cette renommée, en fait, fassent ça.
C'est un 4 étoiles, ici.
Tout à fait. Et touché, oui, parce que la solidarité est belle, que ce soit les hôtels, que ce soit tous les soignants là qui se portent volontaires, parce qu'on est volontaires, pas réquisitionnés, c'est pas tout à fait la même chose en fait, qui sont là à nous sourire, à nous faire des petites blagues qu'on n'a pas toujours, on n'arrive toujours pas à comprendre des fois, mais... Là, c'est le mot du jour, en fait, c'est ce qu'ils ont mis en place il y a une grosse semaine maintenant.
Sur un panneau ?
Sur un panneau, et c'est un peu divertissant, on cherche la réponse.
Alors qu'est-ce qui a marqué sur le panneau ?
Mon premier est un examen, mon deuxième est une boisson, mon troisième est le plat préféré des Chinois, mon tout est un organisme microscopique. Donc, moi, ce matin, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver la réponse. Donc, c'est bactéries. Ouais, ces petites blagues comme ça, ça fait sourire. Voilà.
Après... Ça permet de, justement, un peu de, d'une certaine manière, de vous évader un peu de, du quotidien qui est dur psychologiquement
oui.
Par rapport
au malade Covid. Ça, oui. Alors, pour l'instant, je pense qu'on est dans le dynamisme de notre fonction. Mais je pense qu'on aura certainement une petite redescente, on va dire. J'appelle ça un petit effet boomerang, moi, en sortant de ici. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis venu ici, j'imaginais pas à ce point ce que j'allais voir. Le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes qu'on perd. Alors, au début, je les comptais, j'avoue que je les compte plus. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. L'atteinte neurologique, la perte des repères post-réa. S'enlèvent l'oxygène, ils s'enlèvent leur perf, ils veulent sortir des lits. Et... Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est assez épuisant. J'ai passé 4 nuits là, assez... Enfin, je suis ravi d'être en repos ce week-end, quoi. Bon, je pense qu'il faudra organiser des vacances après. Des vraies vacances pour s'évader, ouais. Parce que c'est vrai que c'est dur. Il faut l'avouer, on a souvent les larmes qui montent. Moi, c'est surtout quand je vois les familles. Ils ont du mal à faire leur deuil parce qu'ils ont vu la personne. Et encore, nous, à l'hôpital Avicenne, ils peuvent venir. Quand on voit que les personnes ne vont pas bien, on prévient les familles. Donc, ils peuvent venir. Hier, j'étais très touché par une famille qui nous a ramené une immense corbeille de fruits et des chocolats pour nous avoir remercié d'accompagner leur papa jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher, nous, les infirmières et les aides-soignants, à avoir cette larme, quoi, je veux dire, même si on essaye de pas les avoir, parce qu'on devient hyper sensible, en fait, hein. Je pensais pas être à Paris un jour et autant chialer, quoi. Mais c'est, je pense qu'on en a besoin pour sortir tout ce qu'il y a. Vous voyez, je vous parle et j'ai les langues qui montent, quoi. Donc voilà. Voilà, à peu près notre vie ici. Et puis par contre, l'hôtel, au top. Ils sont super sympas, super gentils. Ils nous bichonnent, hein. Franchement, je pensais pas qu'un jour je passerais un mois dans un hôtel 4 étoiles, déjà. À Paris, et avec des équipes super sympas comme ça. Quoi. En plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir une collègue, parce que moi, je suis infirmière libérale, depuis 3 ans, et en disponibilité de la PHP de hier, de l'hôpital San Salvador, dans le sud. Et j'ai une collègue qui est arrivée de cet hôpital, donc ça m'a permis de retrouver ma binôme de nuit de l'époque. Et ça permet de faire un petit break de temps en temps, on mange ensemble... on va faire un petit tour, nos courses ensemble, et ça fait du bien.
Alors je m'appelle Virginie, j'ai 40 ans et je suis infirmière. Alors je suis venue en renfort, donc je suis là depuis lundi dernier pour venir en renfort en fait auprès des collègues parisiens. Ouais, je viens de Toulon.
Ah, on est contente de se retrouver. On aurait préféré aller manger un bout chez nous, mais c'est vrai que on s'est fait longtemps. En plus, on se dit faut qu'on mange ensemble. On pensait pas manger pendant 3 semaines ensemble, par contre.
Ouais, ça permet de se sentir moins seul, de pouvoir partager au moins un repas tous les jours ensemble. Et puis bah, de discuter un petit peu de notre quotidien, de ce qu'on vit. Et non, c'est sympa. C'est mieux d'être deux.
Ça fait du bien, ouais.
Ça vous aide à tenir aussi ?
Oui, aussi. Bah, oui. Puis c'est plus rassurant. On arrive, on sait qu'on a quelqu'un sur place, qu'on connaît, qu'on peut échanger, on peut poser des questions pour remettre ses connaissances à jour. Voilà, donc on est pas venu en touriste. Hein, on a pris nos bouquins pour se remettre un petit peu dans les cours et dans les techniques en fait qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ouais.
Le fait d'être à l'hôtel ensemble, ça permet d'avoir un échange humain, d'interagir avec les gens aussi de l'hôtel. Ça vous donne une sorte de cocon, de décompression aussi.
Ah oui, bien sûr, complètement. Ouais, complètement. Après, on a des personnes qui sont très sympas à l'accueil. Donc on descend prendre notre café. Alors il y a cette machine à café, c'est un peu le point de rencontre, ah ouais, hein, d'ailleurs, cette machine à café. Hein.
Ça fait quoi, 2 semaines maintenant qu'elle est là ? Enfin, franchement, elle était bienvenue parce que le café lyophilisé, au bout d'un moment, c'est pas sympa.
Surtout quand on les enchaîne.
Hein. Surtout qu'elle a été offerte, apparemment, et donc c'est sympa, quoi. C'est, franchement, le café, c'est important. Je suis une cafetière ambulante.
Je m'appelle Delphine Bao et je suis la directrice, on va dire par intérim, à l'Holiday Inn Gare de l'Est pendant la durée du confinement et puis tant qu'on recevra des soignants dans l'hôtel. Alors en fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Paris Inn. C'est un groupement hôtelier d'une trentaine d'hôtels basé principalement sur Paris, un petit peu en province, également au Portugal et en Chine. Et en fait, ça vient de l'initiative de notre président. Laurent, qui a décidé de contacter donc l'assistance publique et les hôpitaux de Paris pour mettre à disposition les hôtels du groupe de manière complètement gracieuse. Donc c'est vraiment dans un élan de solidarité pour les soignants, voilà. Donc nous avons l'Holiday Inn Gare de l'Est ici qui est à disposition des soignants et on a également un autre hôtel plus dans le sud de Paris qui s'appelle La Demeure dans le 5e je crois, qui reçoit aussi une quarantaine de soignants. Donc au total on en a à peu près 120 et le fait que ce soit des investisseurs français, il y a je pense cette dynamique, on est dans le tissu local, on a envie de s'investir, voilà. Et voilà, c'est parti de ça, je peux comparer par rapport à d'autres hôtels qui appartiennent à des fonds d'investissement étrangers et du coup leur implication, leur engagement n'est absolument pas la même.
Pendant notre interview, un homme portant un masque et des gants passe derrière nous avec un chariot métallique.
Ici, je viens livrer en fin de compte des chariots vides, des sacs hydrofuges et des sacs rouges en fin de compte. Le linge actuellement contaminé va devoir être mis dans les sacs hydrofuges, dans des sacs rouges, puis après dans les chariots adaptés. En fin de compte, et donc mercredi, je reviens théoriquement ramasser en fin de compte ces chariots-là qui retournent chez nous, dans notre entreprise tout simplement, pour décontaminer le linge. Donc il y a un process à suivre de décontamination, puis le linge revient ici à l'hôtel en livraison. J'ai fini en fin de compte de livrer ce que j'avais à livrer, donc là je m'apprête à retourner au dépôt. Mohamed, 43 ans, j'habite à Chantoux-les-Vignes et je travaille pour une blanchisserie industrielle qui se nomme Calige, du groupe Ness. Tous les jours, on a été en fin de compte détaché pour épauler Dasri Proserve, qui est spécialisée dans la collecte des déchets hospitaliers.
Tous les jours, vous avez des palettes, comment ça se passe ?
Tous les jours, nous allons dans les hôpitaux, donc ramasser des palettes, ça peut monter jusqu'à 18 palettes. Une palette fait en moyenne 100 à 120 kilos. Tous les déchets hospitaliers qui sont des gants infectés, des masques, ça peut être des charlottes, ça peut être des combinaisons, ça peut aller plus loin, ça peut être des seringues, ça peut être tout ce qui se jette à l'hôpital tout simplement. Donc tous ces déchets sont conditionnés dans les normes, donc dans des sacs. Les sacs sont fermés, sont conditionnés dans des cartons et ces cartons-là sont conditionnés sur des palettes qu'on va ramasser directement et qu'on apporte aux incinérateurs.
Et vous travaillez dans quelles conditions ? Vous êtes protégé ?
Nous sommes protégés, oui, nous sommes protégés. Nous avons gants, masques, gel hydro, nous avons vraiment tout pour travailler dans de bonnes conditions. Tout est mis en œuvre pour ça.
Et vous vivez cette situation comment, vous ?
Mitigé. J'ai peur d'un côté, mais je me sens utile de l'autre, en fin de compte. J'ai peur de contaminer mes proches et la famille. Et derrière, j'ai le sentiment que je me dois, en fin de compte, d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider un petit peu tous ceux qui travaillent, que ce soit les éboueurs qui bossent, qui collectent nos déchets, que ce soit les infirmières qui sont sur le front, les docteurs. Je me dois, je me sens utile.
Il y a une forme de fierté aussi à participer à l'effort collectif.
Oui, il y a une forme de fierté, ça c'est clair. Je me sens d'un côté aussi privilégié de pouvoir en fin de compte me lever tous les matins et d'aller travailler. Je me suis jamais fait contrôler. C'est un privilège d'aller bosser aussi. Hein. C'est un privilège. Je le vis comme ça, c'est un privilège d'aller travailler. Ouais.
En ce moment.
Tout à fait.
En ce moment particulièrement.
Oui, en ce moment particulièrement. Est-ce que ça va l'être dans les prochains jours? Je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, ouais.
Face à l'urgence et à l'impréparation politique de l'approvisionnement en masques de protection, des femmes, des hommes et même parfois des adolescents se sont mobilisés pour pallier le manque et répondre à l'appel de détresse des soignants. Dans le 13e arrondissement de Paris, nous arrivons chez Roméo, 14 ans, élève de 3e.
L'imprimante 3D imprime juste la partie qui maintient la protection, donc le plastique. C'est une sorte de visière transparente qui protège les projections. Et du coup, en fait, la pièce imprimée en 3D, c'est une sorte de serre-tête qu'on met sur la tête comme ça et qui maintient la visière.
Dans la petite chambre, Roméo est penché sur ses imprimantes.
Je suis passionné d'impression 3D depuis la 6e. Au début, ma mère, elle voulait pas trop que j'ai une imprimante 3D parce qu'elle savait pas à quoi elle allait me servir. Maintenant, elle a changé d'avis.
Il a produit son premier masque il y a une semaine. Et depuis, l'atelier tourne à plein régime, en continu de 8h à 22h pour créer les pièces. L'idée lui est venue sur Internet.
Il y a une personne qui a monté une plateforme qui mettait en relation ceux qui demandaient les masques et ceux qui fabriquent. Là, j'ai vu qu'il y avait l'hôpital des Peupliers juste à côté qui demandait 250 masques. Donc j'ai pris la commande et puis voilà. Le jour même, on est allé livrer 16 masques. Puis après, ils étaient super contents. Donc on a continué à imprimer. Et là, en tout, on avait imprimé 178 pour l'hôpital. Enfin, qu'on a donné, parce que là, il en reste qu'on n'a pas donné, il doit y en avoir une cinquantaine.
Il livre tous les jours ses masques à l'hôpital. Il ne faut maintenant que 30 minutes pour en fabriquer 3, sous le regard admiratif de sa mère, Julie, très impliquée.
Vu l'accueil qu'on a eu à l'hôpital, qui était tellement enthousiaste, on a senti qu'ils avaient besoin de ces masques de façon urgente, la grande question a été comment multiplier l'impression.
Elle se souvient alors que le collège de son fils dispose d'une imprimante 3D.
Donc tout de suite, on s'est dit, allons chercher cette imprimante.
Elle la récupère, puis Roméo fait jouer son réseau d'amis.
Qui avait aussi des imprimantes 3D, qui se sont mis à imprimer chez eux. Et un de ses camarades n'est pas confiné chez sa mère où était l'imprimante, donc sa mère nous a remis l'imprimante aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en a 3. Donc on a une chambre avec toutes les imprimantes, le matériel informatique, les outils, les bobines... Et la table du salon réquisitionnée pour le montage des masques, et oui, moi je dors juste à côté. Bah oui, c'est un appartement parisien, normal. Hein. Alors on a fait des achats, nous, sur Internet, dès le début, pour tester. Depuis, on est soutenu par énormément de personnes. Donc le filament, nous l'attendons, il a été envoyé par Dagoma. Et donc en fait, on attend une grosse livraison de filaments aujourd'hui. Qui nous est offert et livré de façon gratuite aussi par Dagoma et United 3D Makers, qui est une start-up aussi dans l'impression 3D.
On sonne à la porte. Roméo et sa mère remontent le petit couloir pour accueillir un livreur.
Je vous laisse ça ici, ça va aller.
Oui, parfait, c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Qu'est-ce qu'il y a dans la livraison ?
Donc il y a trois boîtes de filaments, donc en tout ça fait trois boîtes de 750 grammes.
Ça permet de fabriquer combien de masques ?
Ça fait 150 masques là-dessus, voilà.
Allez.
Ça s'ouvre pas, c'est nul leur boîte là. Voilà, il faut que j'ai ce filament. Donc, c'est une bobine de fil en fait, à première vue, et en fait... C'est du plastique et en fait, ça permet à l'imprimante de le fondre et de le déposer sur le plateau, sous une certaine forme.
On a à peu près 60 masques par jour. Donc ça peut aller assez vite. Et au final, ça fait beaucoup. Et en même temps, l'hôpital, ils en voulaient 200, 250. Les EHPAD autour, ce qu'on a cherché, c'est tout ce qu'on avait dans un rayon de 1 km, puisque c'est le confinement aussi pour nous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a 2 hôpitaux, 3, 4 EHPAD... plus des centres de soins, 2 centres d'accueil pour les réfugiés où il y a aussi besoin de masques pour les protéger parce qu'ils vivent de façon très confinée. Donc au final, dans notre périmètre d'un kilomètre, on a de quoi tourner pour plusieurs milliers de masques, sans problème.
Soit à l'hôpital, on a encore besoin, soit on va les passer à des EHPAD ou à des personnes comme des commerçants ou des médecins généralistes qui sont exposés aussi. Mais notre priorité, c'était l'hôpital d'abord et quand ils en auront plus besoin, on ira ailleurs.
À la mi-journée, livraison d'une vingtaine de masques à l'hôpital des Peupliers. Guylaine Etkaïssi est en charge de l'unité de soins Covid. Elle est toujours aussi émue.
C'est très touchant parce qu'en fait, on se rend compte que les gens sont quand même impliqués. Ils essaient de s'impliquer aux côtés des soignants, en fait, d'une autre manière. Donc, avec les visières, c'est vrai que c'est... Quand on nous a apporté les premières, on s'est dit « Oh, stop, c'est génial !» Et en plus, après, quand on a vu la personne qui les a fait venir, c'était encore plus étonnant.
Un adolescent.
Voilà, on se dit « Ouais, voilà, Roméo, c'est pas son âge déjà. » Il investit comme ça, c'est très émouvant. En fait, on se rend compte que les gens réfléchissent, essaient de voir comment ils peuvent aider.
Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Demain, alors.
Ça marche.
Encore des visières plastiques, mais cette fois à l'échelle industrielle. En banlieue parisienne, à Chelles, en Seine-Saint-Denis, c'est une petite usine qui s'est créée.
On est à la fabrique éphémère qui a été réalisée il y a 15 jours grâce aux moyens de la mairie. Moi, je m'appelle Valentin, j'ai 28 ans. Je suis patron d'une société d'informatique et de réseau. Donc en gros, pour la petite histoire, on était tous des petits makers qui faisaient ça à la maison, H24.
Maker, c'est quoi ?
Maker, dans le jargon, c'est ceux qui créent, ceux qui ont des imprimantes 3D. Donc là, il y a... une trentaine de machines en action. Et du coup, ça nous permet de réaliser entre 400 à 600 visières par jour.
En deux semaines, son collectif a pu donner gratuitement 4400 visières aux hôpitaux, policiers et pompiers de la région. Mais ce matin, il vient d'envoyer un colis de 10 masques en direction du Cantal, pour le petit village de Marcenat, 500 habitants.
Du coup, le contact, c'est mon tonton, c'est mon oncle qui s'appelle Philippe, et qui est très investi dans sa petite bourgade et qui m'a vraiment fait part de son désespoir par rapport aux commerçants. Parce que, en fait, chez eux, c'est même pas milieu hospitalier et autres, il n'y a pas. Là, c'est vraiment juste les lignes de vie pour les gens qui vivent sur place pour aller acheter de la nourriture au jour le jour, quoi.
Je m'appelle Philippe Savant et je suis psychologue à la retraite.
Et donc, ces masques, c'est vous qui allez les recevoir? Est-ce que vous savez quand vous allez recevoir?
C'est parti ce matin. J'espère que nous les aurons jeudi ou vendredi.
La maire de Marcenat, c'est Colette Poncher-Passemard. Elle est ravie de cette initiative.
Oui, j'ai appris ça avec joie. Un conseiller nouvellement élu qui n'a pas encore pris de fonction, puisqu'il faut attendre le deuxième tour, mais qui déjà œuvre pour la commune. Bien entendu, c'est émouvant et on voit qu'il y a une chaîne de solidarité entre les urbains et puis notre petit monde rural.
Elle précise que la communauté de communes dont dépend son village produit elle aussi des visières de protection. 173 en deux semaines via une fabrique locale qui a déjà pu équiper les employés des EHPAD, des ordures ménagères et de la poste qui reste en fonction.
T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une faute de temps.
Retour à Paris, cette fois dans le 18e arrondissement. Et c'est notre collègue du service politique de France Culture, Anne Fauquemberg, elle aussi volontaire pour le reportage à France Info, qui nous emmène découvrir une fabrique de masques, cette fois en tissu, quartier de la Goutte d'Or, rue des Gardes.
Alors moi je m'appelle Luc Donien, moi je suis designer maroquinier installé à la Goutte d'Or depuis 2001, et je développe ma marque de sacs. Mais en même temps, j'ai la particularité de fabriquer entièrement tous mes produits à 100% ici, dans mon atelier. Et donc, un jour, la mairie de Paris a sollicité tous les professionnels du quartier en disant, voilà, vous êtes tous à la Goutte d'Or, là, vous pourriez peut-être faire des choses ensemble. Donc, a commencé des grandes discussions qui ont abouti à la création d'une association, dans un premier temps. Et trois ans plus tard, en 2014, a été créée la coopérative, la fabrique de la Goutte d'Or. Le sujet, là, étant de mettre en réseau les ateliers du quartier. Et donc celui-là, il a été ouvert il y a 6 mois, et depuis, il ne cesse de monter en puissance, et on l'appelle l'atelier mutualisé de la fabrique de la Goutte d'Or. Typiquement, vous voyez, en bas, l'atelier, il fait 100 mètres carrés, et il y a une très grande table de coupe, parce que la coupe, ça nécessite de la place, et puis ça coûte cher, c'est-à-dire qu'il faut faire travailler un coupeur, et ça, je pense qu'aucun atelier dans le quartier n'a les moyens, à lui seul, d'assumer cette charge. Donc ça a tout à fait un sens économique de mutualiser ce service de coupe. Et donc, cet atelier mutualisé est en train de monter en puissance parce qu'il répond à un vrai besoin des ateliers du quartier à se mettre ensemble pour obtenir certaines prestations qu'ils ne pourraient pas avoir tout seuls. Et aussi vis-à-vis de donneurs d'ordre, puisqu'il y a un vrai mouvement de retour à la fabrication locale qui va certainement monter en puissance avec la crise actuelle de cette pandémie, qui vient quand même de l'atelier du monde. Ce n'est pas un hasard, c'est quand même une crise aussi de la délocalisation. Donc là, il y a quand même des questions à se poser, et d'ailleurs, beaucoup de gens s'en posent manifestement. Il se trouve que ce malheureux virus a débloqué plein de choses qu'on voulait faire depuis longtemps, mais qu'on avait du mal à faire. Tout devient possible.
Je vais avoir le coupeur.
C'est moi.
C'est vous le coupeur.
Voilà, c'est moi. Jérôme Ostin, affilié aux collections Gérard Darrel pendant 15 ans.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai été contacté par le gérant pour venir ici, afin de donner un coup de main, comme tout le monde, faire la bonne action, la bonne œuvre, et couper des masques. Bon, ce qui n'est pas du tout ma spécialité.
Ouais.
Moi, c'est les robes, les pantalons, les jupes, enfin bref, la confection. Et j'ai accepté, puis depuis, j'y prends goût.
Ouais.
D'abord, on se fait plaisir, parce que le confinement, c'est très difficile, en tout cas pour moi. Et que de ne rien faire, je suis venu ici pour couper des masques. Voilà. Ce sont des lignes droites, hein. C'est des lignes droites, on va pas dire que c'est très très difficile et tout. Mais bon, c'est le matelassage. C'est-à-dire de monter le matelas de tissu, c'est-à-dire feuille par feuille. Là, j'ai monté un matelas de 50 feuilles, on peut monter 200 feuilles, enfin bref, ça dépend de la qualité du tissu. Là, c'est très 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 fragile puisque c'est la doublure intérieure du masque. Alors, c'est tellement fin que ça se déchire. Là, il y a du travail. Voilà. Donc, j'en ai coupé depuis un petit moment, ça fait de 20 000, 30 000, j'ai coupé de doublure comme ça. Sinon, bah, c'est le basique, j'ai coupé le coton. Enfin, voilà.
Alors, moi, c'est Alexandre Zongo. Je suis actuellement le gérant de la coopérative. Hein. Cette année, voyant l'épidémie étant arrivée, la mairie aussi a vu que, voilà, au niveau de Paris, autour de Paris, il n'y a pas de structure comme la nôtre qui existe. Donc, ils nous ont fait appel. Écoutez, il y a ce problème-là, on a besoin de fabriquer des masques. En ce moment, le monde entier, partout, s'est tendu pour l'histoire des masques. Est-ce que la structure que vous avez déjà permettra de le basculer aussitôt pour des masques? Déjà, pour la commande de la mairie, nous, on a dit oui, bingo, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais tout le monde étant confiné, on a essayé de les contacter, voir quels sont ceux qui sont disponibles, ceux qui n'habitent pas trop loin, qui peuvent se déplacer. On les a fait, voilà, des laissez-passer pour qu'ils puissent nous rejoindre. On a fait une réunion. Ok, à partir de là, la mairie, voilà, la commande a été lancée et puis là, on est prêt, quoi, on est parti.
C'est dur de fabriquer un masque, ça suppose quoi? C'est quoi la difficulté?
Il n'y a pas vraiment une grosse difficulté, bon, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est vrai que la commande de la mairie a été centralisée aux ateliers de Paris qui distribuent. Donc, aux ateliers de Paris aussi, ils ont le système de coupe, mais n'ayant pas des ateliers comme le nôtre qui permet de faire des montages à grande série, donc eux, ils font les coupes, ils font les kits, dans des cartons de 250 pièces à 500 pièces, voire 1000 pièces par carton. Ensuite, ils nous les livrent à l'atelier ici. Et puis, du coup, nous, ça permet de distribuer ça à toutes les couturiers du quartier. Ils les fabriquent, ils les ramènent au showroom ici. Ensuite, on fait le pactage et ça repart.
Alors, on ne fait pas des masques n'importe comment. Il y a des normes.
Non, il y a des normes. Il y a des normes. L'atelier est assez propre à ce niveau-là. Voilà, tout y est. On a les matières. On a, voilà, tout est protégé ici. Vous avez bien vu les lieux en bas. Il y a tout ce qu'il faut. Côté propreté, c'est très important. Les masques ne doivent pas être manipulés n'importe comment. Et les ateliers qui coopèrent avec nous, qui viennent prendre les kits pour les faire, on connaît les ateliers, on sait comment ils fonctionnent, la propreté chez eux. Voilà, tout ça, c'est surveillé, hein, très surveillé. Les kits sont déjà préparés à l'extérieur. On a les matières, le filtre qui est à l'intérieur, tout est déjà préparé d'avance. Ici, c'est juste l'assemblage. Donc, on n'apporte pas quelque chose d'autre par rapport à ce qui est déjà conçu. Donc, au niveau des normes, tout est respecté.
Emmanuel Macron demande aux industriels de produire 10 000 respirateurs pour équiper les hôpitaux. Le 15 avril dernier, l'usine automobile PSA de Poissy ouvre ses portes à quelques journalistes.
On va vous les rentrer un par un avec des écarts de 1 mètre à chaque fois. Vous avez des marquages au sol.
À l'entrée, trois ouvriers en combinaison intégrale portant des masques et des gants. Première étape, ils prennent la température de chaque personne avec un capteur au niveau du front.
36,2.
C'est bon, la personne peut passer à l'étape suivante. Lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de recevoir un masque et une paire de lunettes en plastique.
Frédéric Sanmarco, je suis la responsable communication du site. Tout est à l'arrêt, mis à part l'atelier de fabrication des respirateurs artificiels. L'atelier, on va vous le présenter. Il y a 15 jours, c'était un espace vide. Les fournisseurs qui nous amènent directement les pièces. Vous voyez ici sur ces engins dans les petits cartons où c'est séparé, c'est 300 pièces par respirateur. L'essentiel de l'activité, en fait, c'est vraiment de l'assemblage et de l'assemblage de très petites pièces. Vous allez le voir, c'est des outils avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler puisque là, on est plus sur le tout petit tournevis, la pince à épiler.
Je m'appelle Franck Guérin, je suis là pour coacher et les aider à appréhender tous les outils de PSA. On a construit une équipe de 95 personnes et tous volontaires pour venir travailler.
On ne fait évidemment absolument aucun argent sur ces activités. Donc Yann Vincent, je suis le directeur industriel du groupe PSA. On n'est vraiment pas sur le cœur de notre métier, donc sur la fabrication automobile. Oui, beaucoup de petits composants. On est sur quasiment de l'horlogerie. On a commencé jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, on pense en produire un petit peu moins de 100 de blocs produits. Mais on ne voit aucune difficulté pour monter aux 300 par jour.
Valérie, là on contrôle l'appareil une fois qu'il est terminé. L'appareil est en métal avec des tuyaux en caoutchouc et ça fait à peu près peut-être 20 cm. Ça ressemble à un cube. Il y a des boulons un peu partout, des vis, et puis voilà.
Michel, donc moi je suis responsable d'unité, donc je me suis spontanément dit de venir en tant que volontaire. J'ai 49 ans, j'ai une fille. En fait, c'est un engagement, quoi. À, on va dire, sauver des personnes. Moi, ma femme, elle est aux hôpitaux de Paris. Et elle y va, elle travaille tous les jours. Donc je me suis dit, pourquoi rester à la maison et puis ne pas venir directement travailler aussi, quand même. Donc voilà, je prends en fait ce bloc-là, là, il est composé de deux blocs. Donc je le mets ici. Ouais, c'est un bloc en fait en alu. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je branche l'air. Donc nous, on fait des contrôles avec, avec de l'air. Ce n'est pas de l'oxygène en lui-même. Donc là, j'ai mis l'air, je mets mon électrovanne. Ensuite, je contrôle en fait une étanchéité toute simple sur la première partie, ici. Donc ici, voilà, avec un pinceau, avec de l'eau et du savon, pour pouvoir, on va dire, faire des bulles. Hein. Donc ensuite, je viens donc actionner l'appareil. Et donc, il fait échapper en fait la bulle. Ensuite, je mets une plaque pour faire en fait le contrôle étanchéité, ce qui est en fait l'un des rôles importants sur ce poste-là. Et là, il n'y a pas d'échappement d'air qui se fait. Voilà. Je le remets dans la boîte avec la feuille pour mon client suivant.
Vous en faites combien par jour ?
Bah là, pour le moment, on nous a demandé aujourd'hui d'en faire 90. Donc par la suite, pour monter en plus en cadence un peu plus tard, pour voir si, admettons, si on fait bien les pièces ou pas. Donc voilà.
Pendant le confinement, les bénéficiaires des minima sociaux, notamment du RSA, viennent retirer en argent liquide leur allocation, car ils n'ont pas de carte de crédit. Devant la poste Bonne Nouvelle, 10e arrondissement de Paris, Arnaud, 45 ans, rencontré le 6 avril dernier.
Quelle opération, monsieur ? Retrait des pauvres.
Bah, je vais faire mon retrait de RSA, simplement, voilà. Oui, en liquide.
Là, ça a été dur à passer le week-end.
Oui. Oui, oui. Ah, oui, surtout quand on est au RSA. Le RSA, il ne faut pas croire, il ne fait pas tout le mois. Sur le mois, ça va me durer 15 jours, 20 jours. Voilà.
Vous faites comment là avec le confinement ? Avec le RSA, vous en sortez ?
Je me débrouille, je fais des petits boulots. Voilà. Des fois, je fais la manche aussi. Donc, voilà. Bah, nous, on a créé un petit groupe et puis on s'aide entre nous. Quoi. Après, on verra comment on pourra faire pour se rembourser les uns les autres, quoi. Mais voilà, quoi. Sur le mois, ça va me durer 15 jours, 20 jours. Voilà.
Quelle opération, monsieur ? Retrait, dépôt.
Arnaud, j'ai 45 ans. On s'organise comme on peut, quoi. Et, quand il y en a un qui a besoin, bah, l'autre, il se dévoue, et puis ainsi de suite et tout. Après, comme je vous dis, on fera une petite mélasse, et puis chacun remboursera les autres, les uns les autres, quoi. Ouais, ça a été plus dur, ouais, parce que en fait, le confinement, il est tombé au milieu du mois, donc on s'attendait pas à ça. Donc les réserves de potes, les réserves de riz et tout, on n'avait pas forcément prévu de les faire, quoi. Comme on est au RSA, on n'a pas forcément les moyens de faire des courses au mois, quoi. On les fait au jour le jour, et puis voilà, c'est tout. Et tout, vous savez, je suis un ancien SDF, j'ai un petit appartement maintenant, faut le gérer. Je suis au RSA et on se débrouille comme on peut avec la Croix-Rouge. C'est des maraudes, ils passent régulièrement, en fait. Ils passent régulièrement, ils nous donnent des colis, des trucs, et voilà quoi. C'est, je leur tiens un grand chapeau parce qu'ils font un boulot formidable. Mais bon, moi j'ai la chance d'avoir quand même des amis qui travaillent dans un magasin et qui, si je leur demande, me dépannent à manger ou je me dépanne, bien que c'est pas mon caractère, mais bon, si vraiment je leur demande, ils le font.
Avant de clore ce reportage, nous voici à l'hôtel Holiday Inn pour prendre des nouvelles d'Elisabeth, l'infirmière volontaire venue du Var. Une semaine après notre première rencontre, elle nous donne ses priorités pour l'après-confinement.
Est-ce que je viens de traverser ? Alors la priorité pour moi, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. parce que je doute qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Il va falloir des prises de conscience, il va falloir prendre de grandes décisions au niveau de la santé, au niveau des personnels de santé qui étaient déjà en grande souffrance. Et le Covid, même si on est là, on est battant, on réagit parce que souvent on fait ça, c'est par conviction. Il va falloir à un moment donné remercier un peu plus que par le peuple qui les remercie eux tous les jours. Il faudra que les gouvernements, tout ça, prennent conscience que c'est un maillon important de la vie et que sans le système de santé, ben, il ne se passe rien en cas de crise sanitaire.
Et au quotidien aussi finalement, parce que là on est dans une période où il y a eu des mois de grève aux urgences, il y a un mouvement social inédit à l'hôpital public.
Oui, mais le problème du mouvement social inédit dans les soins, c'est comme pour les pompiers, le problème c'est que nous on fait des mouvements sociaux en travaillant, donc on n'est pas entendu de la même façon. On peut pas se dire on va faire grève, on refuse tous les patients aux urgences, on peut pas. Donc c'est jamais entendu et je pense que c'est jamais pris avec le même sérieux que les éboueurs qui arrêtent de récupérer les ordures ou les livreurs qui arrêtent de livrer, parce qu'il y a une conséquence immédiate. Nous, c'est une conséquence qu'on lit dans les journaux, parce que nous, on est réquisitionnés en cas de grève. Du coup, c'est pas écouté de la même façon. Ça, c'est comme un enfant qui crie toute la journée, on l'écoute plus. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a pas mal d'amertume. Parce que c'est des choses, on est quand même dans un pays riche, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de capacités intellectuelles, physiques, au niveau entreprise et tout ça. Et on s'est laissé avoir par un microbe, par un virus. Et ce qui nous sauve quand même, en tout cas ce qui sauve les patients, c'est qu'on a un pays avec une sécurité sociale. C'est à préserver, mais il faut en prendre soin aussi. En prendre soin parce que le social a ses limites, quoi. Et là, l'économie dans l'état où elle est à ce jour, ça va être difficile de combler, quoi. Je veux dire.
Et une dernière question, si vous aviez possibilité d'adresser un message au gouvernement ou au ministre de la Santé, qu'est-ce que vous demanderiez là ?
Une revalorisation sérieuse des salaires des soignants. Mais pas 1% pour dire que c'est 1%, parce qu'1% c'est rien. Mais une vraie revalorisation des salaires, une vraie revalorisation des formations professionnelles, un vrai accompagnement de l'hôpital. Arrêter tout cet hôpital lucratif qu'on ne peut pas être. Un hôpital, c'est des soins. Un hôpital, c'est on apporte de l'aide. On ne peut pas faire une société d'un hôpital. C'est pas un commerce, la santé. Mais là, je pense que c'est sérieux. Il va falloir revoir l'hôpital de A à Z et pas un plan pour calmer les esprits, on va dire. Un vrai plan. Même si ça coûte des sous, parce que ça coûtera de l'argent. Nous, les soignants, il n'y en a pas beaucoup qui vous diront on est respectés. Là, c'est vrai que la population nous dit merci. C'est très touchant. Hein. On est très reconnaissant de ça. Mais il va falloir que le gouvernement nous entende un peu plus. Sans qu'on aille dans la rue, c'est fatigant aussi d'aller dans la rue. Parce que, comme je vous disais au départ, nous, on est dans la rue tout en travaillant. On espère qu'ils nous écoutent. Je pense qu'ils ont entendu. Après, maintenant, il va falloir qu'ils le mettent en place.
J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Je ne ferai pas 39 heures pour 35 francs de l'heure et vos 5000 francs de bonheur. J'en veux même pas pour mon 4 heures, ok. Je me lève un peu tard, j'enchaîne direct.
Covid-19, la nouvelle économie sociale et solidaire. Un reportage de Sophie Delpont avec la participation d'Anne Fockenberg et Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'économiste Daniel Cohen est l'invité de Grand Reportage. Alors en écoutant ces témoignages, Daniel Cohen, on se prend volontiers à rêver d'une société plus solidaire, mais vous allez peut-être nous faire retomber sur terre. Est-ce qu'on est capable tout d'abord de mesurer l'ampleur de cet élan solidaire, de ces initiatives de travailleurs indépendants, de salariés, de petites entreprises ou également des grands groupes industriels ?
Alors c'est évidemment très très difficile à mesurer. Tout ce qu'on sait, c'est que en gros un tiers de la population active, alors il faut élargir pour avoir les jeunes gens qui ont participé à tout ça, mais a continué de travailler. En fait, il y a trois tiers, un tiers qui a continué de travailler, un tiers qui a fait du télétravail et un tiers à peu près hein, qui n'a pas pu travailler, donc qui est resté en confinement absolu et sans accès à leurs conditions de travail habituel et qui le plus souvent ont été couverts, pas toujours hélas, mais souvent couverts par le chômage partiel. Donc oui, il y a certainement un tiers de la France qui a continué d'assurer les tâches vitales et qui permettent à notre société, je dis même pas à notre économie, de fonctionner, dans les hôpitaux, les caissières, les éboueurs dont on a parlé, les gens qui s'occupent de l'électricité. C'est vraiment le noyau dur de ceux qui ont fait preuve à la fois de courage et souvent de dévouement. Donc je ne sais pas si on peut aller au-delà dans la manière de chiffrer les choses, mais on sait que c'est là, autour de ces personnes, qu'a pu se jouer le fonctionnement de notre société pendant cette période de confinement.
Avec aussi une réorientation d'activité pour certaines entreprises qui se sont mises à produire donc des masques, des surblouses.
Oui, il y a eu tout ça, évidemment, moins peut-être qu'on aurait pu l'imaginer, parce que on est dans une situation un peu étrange. C'est, le président a parlé d'une situation de guerre, c'est évidemment pas du tout ça la bonne référence. La guerre, on envoie les jeunes mourir au front. Là, en l'occurrence, il s'agit au contraire de protéger la société, d'éviter le risque mortel. Mais il y a un peu cette notion d'économie de guerre que peut-être on aurait aimé voir davantage utilisée. Une économie de guerre, c'est une économie qui tourne au fond au service d'un objectif. En l'occurrence, pendant la guerre elle-même, produire des armes et des soldats. Là, il s'agissait de produire les moyens de répondre à cette crise sanitaire, et donc un peu plus de coordination aurait pu être utile, un peu plus de directives données aux entreprises aurait pu être utile aussi. On est un peu dans un entre-deux aussi, parce qu'on n'a pas pris très vite ou assez tôt la mesure de cette crise. On a pensé que le confinement suffirait peut-être dans un premier temps. On se rend compte que ça n'est pas le cas, que le déconfinement va exiger de travailler dans des conditions de distanciation sociale qui resteront difficiles parce que le virus continuera de rôder. Donc cette idée qu'on aurait pu faire davantage au service de ce bien qu'on est en train de protéger, qui est la santé publique, je pense que ça n'a été que très partiel, sans doute insuffisant, et sans doute en partie parce qu'on n'a pas pris la bonne dimension temporelle de cette crise dans laquelle on est entré, je crois, pour encore un certain temps.
Sophie Delpont.
Oui, vous parliez, Daniel Cohen, d'économie de guerre et effectivement de ces images guerrières qu'on a beaucoup utilisées au niveau de la communication politique. On entendait Elisabeth, cette infirmière volontaire, qui est allée au front, parfois sans armes. Elle parle des difficultés de trouver du gel hydroalcoolique. Elle parle du fait qu'elle y est allée, en fait, parce que c'est sa mission de soignante. C'est des soldats qui sont allés avec leur dévouement, parfois, comme seule arme.
Oui, mais tout à fait. Et c'est pour ça, encore une fois, je n'aime pas du tout cette métaphore d'une situation de guerre. On est en guerre. On n'est pas en guerre contre qui. C'est notre bien commun qu'on essaye de protéger. Donc, à certains égards, c'est vraiment exactement le contraire. Mais il y a une analogie pour cette question de mobiliser les moyens et de coordonner, et en dehors évidemment des procédures de marché. C'est pas l'offre et la demande. C'est pas le prix des masses. C'est pas le prix des tests qui va faire qu'à l'équilibre, comme dans les Robinsonades, on dit parfois des économistes, que magiquement la main invisible va régler ces problèmes de dysfonctionnement. Pas du tout. Il faut une coordination de tous autour de cet objectif. Mais c'est vrai que on l'a répété plusieurs fois. On envoie ces infirmiers, on envoie ces caissières, ces caissiers aussi, hein, puisque ils jouent un rôle très important pour approvisionner les populations en bien premier. On les envoie au front sans armes, sans protection, sans casque, sans munitions, que seraient des masques, que serait un dépistage systématique, pour bien être au clair de la question de savoir si les hôpitaux, les lieux de santé sont devenus eux-mêmes des clusters. C'est tout ça qu'on a mis beaucoup de temps et qu'on a encore beaucoup de difficultés à régler. C'est ça qui crée certainement chez ces personnes dévouées cette frustration de s'offrir dans ce combat et de ne pas recevoir le renfort matériel et aussi de l'intelligence collective qui serait nécessaire pour bien répondre à tout ça.
Et d'ailleurs, les soignants de l'hôpital public se plaignent déjà du retour des gestionnaires. C'est une crainte que vous partagez également?
Alors, j'espère que non. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on voit les reportages, on lit les enquêtes. Tout d'un coup, les médecins ont été bizarrement, et en dépit de ce que je viens de dire, heureux de cette situation, parce que ils avaient tout d'un coup, heureux, évidemment avec beaucoup de guillemets, mais ils ont pu voir qu'ils reprenaient possession des hôpitaux, c'est-à-dire que c'était eux qui disaient, même si ça n'était pas toujours suivi des faits, voilà nos besoins, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment réorganiser l'hôpital, et les directeurs d'hôpitaux, il ne s'agit pas de les désigner comme les boucs émissaires de tout ça, mais ils n'avaient plus leur mot à dire, comme si les contraintes gestionnaires devaient se retirer face aux contraintes d'organisation. Je ne suis pas sûr que ça va changer à très court terme, mais c'est vrai qu'indiscutablement, on a vu que lorsqu'il s'agit de faire de la santé, le bien qu'on cherche à produire, j'ai envie de dire à l'exclusion des autres, les choses ne sont pas du tout gérées de la même manière que lorsque la santé est un bien parmi d'autres qui doit être soumis à des économies diverses et variées. Vous savez, il y a beaucoup de références comme ça, un peu bizarres, mais une enquête qui est très connue chez les épidémiologistes, enfin, c'est celle qui avait montré que pendant la Seconde Guerre mondiale, jamais il y a eu moins de morts en Angleterre. C'est-à-dire que malgré la guerre, les taux de décès ont beaucoup baissé pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Pourquoi ? Parce que il y a eu cette solidarité collective qui s'est mise en place, on a mieux nourri, on a mieux soigné les populations, et au bout du compte, le taux de mortalité, encore une fois, malgré les morts au combat, pour le coup vraiment, ont baissé. Et c'est quelque chose de cette nature qui attend de se catalyser, je crois, enfin qui a envie de se catalyser. Une des raisons, bon, c'est peut-être un peu politique de le dire comme ça, mais une des raisons pour lesquelles ça n'a pas si bien fonctionné, c'est que l'État français est dans un entre-deux qui n'est pas très efficace, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'État jacobin qui est capable d'appuyer sur un bouton pour que toute l'économie, la société, etc. lui obéisse. Et en même temps, il n'est pas devenu cet État décentralisé, celui des Länder allemands ou des États américains, dans lequel un pouvoir exécutif réel est donné dans les régions, au plus près de la situation réelle des personnes. Donc il y a des instructions qui viennent de Paris, et puis ça se perd, c'est désorganisé, et on n'a pas une gestion au plus près comme il aurait fallu. Alors c'est vrai pour les hôpitaux, mais c'est vrai aussi pour les écoles. Je pense que derrière tout ça, on voit qu'il y a besoin de penser tout à fait autrement la fourniture des biens publics pour se rapprocher des besoins, pour se rapprocher du terrain, avec l'État bien sûr devant garder un rôle essentiel de gardien en dernier ressort de l'égalité entre les différents dans les différentes régions, les différents départements, les différentes communes, mais il a besoin de déléguer beaucoup plus de pouvoir sur le terrain aux acteurs de, en l'occurrence ici, de cette crise sanitaire.
Donc pour vous, c'est plus un problème structurel qu'une problématique du gouvernement actuel précisément ?
Je pense que c'est une conjonction des deux, bien entendu. Le gouvernement n'a pas pris immédiatement la mesure de la crise, bon, mais pas davantage que les Anglais ou les Américains ou les Italiens, les Espagnols. Donc il y a eu une prise par surprise, et il a fallu finalement assez longtemps pour comprendre que cette crise était beaucoup, beaucoup plus sévère que celle qu'on imaginait mi-mars, qu'elle serait durable et qu'elle allait créer une économie tout à fait différente de celle à laquelle on était habitué. Mais je pense aussi que l'instrument État n'est plus le même, qu'il a perdu en efficacité, sans que d'autres puissances locales et collectivités locales n'en profitent. Prenons juste la chose la plus simple qui nous éloigne du problème de la santé, mais le déconfinement a posé un problème immense de coordination entre les transports en commun et les lieux de travail. Il faut impérativement éviter que les transports en commun, notamment je pense à l'Île-de-France que je connais mieux, soient encombrés comme elles l'étaient. Or, on n'a pas été capable de créer, au fond, on s'en est un peu remis au volontariat, ce qui est le comble quand on doit gérer un problème de coordination entre les personnes, les entreprises et la RATP ou la SNCF. Ça peut pas être le volontariat qui fonctionne, parce que on n'a pas su déléguer peut-être à la région la prise en main absolue du retour au travail, en coopération par exemple avec les chambres de commerce et d'industrie, pour être capable de dire de 8h à 9h voilà qui va travailler, de 9h à 10h, de 10h à 11h, enfin des choses qui soient indicatives, pas forcément impératives, mais indicatives de la façon de gérer un espace. Hors de Paris, on ne peut pas gérer la façon dont la région de Lyon va s'opérer. Donc il y a eu une espèce d'entre-deux ici qui révèle au fond un peu les faiblesses de la puissance publique française, parce qu'elle n'a pas été au bout, elle est restée au milieu, et là comme le regret de son passé napoléonien, et puis elle n'a pas osé assumer une délégation réelle de pouvoir aux acteurs du terrain, qui sont notamment les agences régionales de santé, les hôpitaux, etc.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un électrochoc qui pourrait entraîner des évolutions durables ?
L'électrochoc, je pense qu'il va venir en réalité. C'est-à-dire que là, on est encore dans l'idée, le confinement, on met tout le monde sous cloche, on bouge pas, on attend. C'est à la fois le déconfinement qui commence, qui peut servir d'électrochoc. Et puis surtout, évidemment, je ne le souhaite pas, mais si on devait assister à une remontée des taux de contamination, s'il fallait en réalité reconfiner la France... peut-être fin août, début septembre, comme certains le disent. J'espère encore une fois que ça ne sera pas le cas. Et peut-être que les mesures de distanciation sociale, de masque et de traçage qu'on va faire suffisent. Mais il y a tout de même une grosse probabilité que ça reparte et une plus grosse probabilité encore, en réalité, que tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé, on vivra au ralenti dans cette distanciation sociale. Bref, on vivra une période exceptionnelle, en fait, où les choses ne pourront plus s'auto-organiser, où il y aura besoin de concertation, de coopération, de coordination. Et là, je pense que s'il devait y avoir une rechute, on prendrait la mesure du fait qu'on ne peut pas se permettre en tout cas, les Français n'accepteraient pas qu'on improvise une deuxième fois. Une première fois, il y a toujours des circonstances atténuantes, mais pas deux fois. Donc, je pense que c'est un peu ce déconfinement et le moment où, tout en espérant que ça passe, évidemment, on va juger beaucoup plus sévèrement l'État, le gouvernement, que ça n'est le cas maintenant, si il n'arrivait pas à se mettre en ordre de route. Et je pense que cet ordre-là viendra, encore une fois, d'une délégation beaucoup plus claire d'autorité à ceux qui sont sur le terrain, et sans doute à commencer par les hôpitaux, les agences régionales de santé. Enfin, il faut voir quel est le niveau pertinent, mais ne pas attendre que l'État décide que voilà, tel hôpital doit faire ça, telle région doit organiser le retour de telle et telle manière. Ça n'a aucun sens aujourd'hui.
Sophie Delpont.
La puissance publique a versé des milliards d'euros d'aide aux entreprises pour soutenir l'économie, pour éviter que s'effondre finalement l'économie d'hier. Aucun chiffre pour l'instant par rapport à l'hôpital public. C'est significatif selon vous ?
Oui, c'est significatif du fait que, encore une fois, vous avez raison de le souligner, on n'a pas été au bout de l'idée que c'était une crise sanitaire. On l'a gérée comme une crise sanitaire au sens large, mais avec ce confinement, mais on n'a pas pris toute la mesure du fait que c'était l'hôpital, la santé qui était au cœur des choses. Quand on essaye de s'interroger, là je reparle en économiste, il y a eu une espèce de fausse controverse qui n'a pas vraiment duré sur la question de savoir si le remède n'était pas pire que le mal, que au fond on en faisait peut-être trop, que au regard du risque sanitaire, bloquer toute l'économie, c'était peut-être excessif, des choses comme ça. D'abord, les Français n'ont pas du tout adhéré à cette idée. Quand on voit les enquêtes, on en a fait avec le Cevipof de Sciences Po, on voit qu'à 80% les Français adhèrent à l'idée que le risque sanitaire justifie pleinement les mesures de confinement et d'interruption de l'économie. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a une demande sociale très importante pour faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire agir de façon préventive. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire qu'une épidémie crée une crise économique de cette ampleur. Les épidémies, dans le passé, elles créaient un coût économique à proportion tout simplement du nombre de morts. Là, c'est pas le cas. Là, on a une crise économique par prévention, et c'est, je pense, un progrès formidable. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, au-delà de ces propos généraux qui, je crois, sont justes, en fait, c'est bien l'engorgement des hôpitaux qui partout a convaincu les gouvernements, même ceux qui étaient réfractaires, je pense à Boris Johnson ou à Trump, qu'il fallait faire quelque chose. Et pourquoi ? Parce que ça n'était pas juste le dysfonctionnement, ce n'était pas juste le risque mortel de cette épidémie qui était en jeu. C'était plus généralement la santé. C'était l'hôpital qui ne fonctionnait plus, qui ne pouvait plus accueillir, qui était surchargé. Et ça, on mesure à quel point c'est comme l'eau, le gaz et l'électricité. Ça pèse pas forcément beaucoup dans le PIB, mais c'est vite. C'est la chose dont on ne peut pas se passer. Et c'est cette image.
Cohen, la santé de tous, quelle que soit sa classe sociale.
Quelle que soit sa classe sociale, bien entendu, mais et aussi quel que soit son âge. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont plutôt les personnes âgées qui sont sensibles au risque mortel, exposées au risque mortel du Covid. Mais ça n'a aucune importance. Les gens n'ont pas voulu faire cette distinction. On sait la santé, en effet, comme un tout insécable qui est en jeu. Et je crois que c'est ça l'image qui a le plus frappé. On veut que les hôpitaux fonctionnent. On veut que tout le monde puisse être soigné, quel que soit l'âge. Et c'est pour ça que les raisonnements économiques qui ont commencé à ont été très très vite balayés par le fait que la santé, comme voilà, c'est un bien commun qui n'est pas négociable en réalité. Ce sont ces choses très simples que cette crise fait apparaître.
Merci Daniel Cohen. Covid-19, la nouvelle économie sociale et solidaire. Le grand reportage de cette semaine était signé Sophie Delpont avec Anne Fauquemberg. Réalisation Annie Brou et Jean-François Braun avec Nasser Moussaoui à la technique. Merci à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France. Et vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.